Voilà, gloire à Dieu. Donc nous allons continuer notre série Béréen l'explorateur. Donc on est arrivé au psaume 49. Donc quand on a lu le psaume 46, non, 45, 46, 47 à 48, on a vu d'autres genres de psaumes. On a vu d'autres genres de psaumes. C'était maintenant des psaumes à 95% consacrés à la louange de Dieu. Donc c'est important de voir cette différence-là. Donc le schéma connu des psaumes, c'est la prière qui commence par manifester et proclamer la gloire de Dieu. Et exprimer le lien qui l'unit à celui qui prie. Et troisièmement, crier à lui par rapport à nos souffrances. Et ça finit par une compréhension de Dieu, une meilleure compréhension de Dieu et une proclamation de la délivrance. Et c'est ça le schéma normal des psaumes. Donc c'est des prières, voilà. Mais il y a des psaumes qui sont différents. Donc, on a vu ça avec le psaume 45, tu es le plus beau des fils de l'homme. Le psaume 46, qui dit que clairement que Dieu est pour nous un refuge et on ne fait que proclamer tout ce qu'il a fait comme ravage. Psaume 47, c'est louange totale. Donc, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Voilà. Donc, ça va comme ça jusqu'au bout. Il est souverainement élevé. Louange. Pareil, le psaume 48, louange jusqu'au bout. Dieu dans ses palais, verset 4, est connu pour une autre retraite. Voilà. C'est des psaumes différents consacrés vraiment à exprimer la gloire de Dieu. Voilà. Et nous allons prendre un psaume 49 qui est maintenant un autre psaume, un autre genre de psaume. Là, c'est des psaumes aussi, des psaumes enseignement en même temps. Voilà, des psaumes enseignement. C'est aussi un genre de psaume. C'est pourquoi les psaumes constituent un livre complet. Donc, il y a de tout dedans. Voilà, donc on va le voir ça, on va le voir avec le psaume 49.
Psaume 49. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Écoutez ceci, vous tous, peuple. Prêtez l'oreille, vous tous, habitants du monde, petits et grands, riches et pauvres. Ma bouche va faire entendre des paroles sages, et mon cœur a des pensées pleines de sens. Je prête l'oreille aux sentences qui me sont inspirées. J'ouvre mon chant au son de la harpe. Pourquoi craindrais-je au jour du malheur? Lorsque l'iniquité de mes adversaires m'enveloppe, ils ont confiance en leurs biens. Ils se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Ils ne vivront pas toujours. Ils n'éviteront pas la vue de la fosse, car ils la verront. Les sages meurent. L'insensé et le stupide périssent également, et ils laissent à d'autres leurs biens. Ils s'imaginent que leurs maisons seront éternelles, que leurs demeures subsisteront d'âge en âge, eux dont les noms sont honorés sur la terre. Mais l'homme qui est en honneur, pardon, n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Telle est leur voie, leur folie. Et ceux qui les suivent se plaisent à leur discours. Comme un troupeau, ils sont mis dans le séjour des morts. La mort en fait sa pâture, et bientôt les hommes droits les foulent aux pieds. Leur beauté s'évanouit, le séjour des morts est leur demeure.
Voilà, ce psaume est un grand enseignement sur l'homme et la mort. C'est une grande réflexion. C'est un chapitre très très important, très très important. Grande réflexion sur la mort. Donc, l'auteur, les fils de Corée, nous font comprendre que finalement, la mort met fin à toute la vanité de l'homme. Il a beau être riche, il a beau être beau, mais finalement, il meurt comme une fourmi aussi peut mourir. Donc, il meurt comme une fourmi, il meurt comme un moustique. Et ça met fin à tout. La mort égalise les gens. Ça fait que les gens deviennent pareils. Et ce psaume est profond en rajoutant que l'homme ne peut pas changer cela. Et donc, il ne peut pas racheter son âme. Il ne peut pas changer cela. Malgré ses richesses, ce n'est pas possible. Et en mi-chemin, on dit, il est semblable, au verset 13, aux bêtes que l'on égorge, mais l'homme qui est en honneur n'a point de durée. Il est semblable aux bêtes que l'on égorge. Donc finalement, quelle est la différence entre l'homme et les bêtes? Il n'y a pas de différence parce que la durée de différence est si faible que finalement, ils ont plutôt un point commun principal, un point commun important, c'est la mort. Tous, ils meurent. Donc, la mort enlève la supériorité de l'homme sur l'animal. Parce que c'est là où ils se rejoignent. L'animal peut mourir, disparaître, comme l'homme aussi. Et il n'y a pas moyen de racheter cela. Il est écrit, les sages, au verset 11, les sages meurent, l'insensé et le stupide périssent également. Donc finalement, on a beau être docteur Bac plus 25, on va mourir comme le paysan qui n'est jamais allé à l'école. Un jour, on va mourir. Alors, où est l'honneur? C'est ce qui est écrit au verset 13. Mais l'homme qui est en honneur, il n'y a pas d'honneur à tirer d'être quelqu'un sur la terre, puisqu'on finit par mourir comme un animal. Et verset 9, le rachat de leur âme est cher et n'aura jamais lieu. Donc, on ne peut pas rattraper cela. C'est trop cher. Le prix est trop élevé. Nous continuons, verset 16.
Verset 16. Mais Dieu sauvera mon âme du séjour des morts, car il me prendra sous sa protection. Ne sois pas dans la crainte parce qu'un homme s'enrichit, parce que les trésors de sa maison se multiplient, car il n'emporte rien en mourant. Ses trésors ne descendent point après lui. Il aura beau s'estimer heureux pendant sa vie, on aura beau te louer des jouissances que tu te donnes, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. L'homme qui est en honneur et qui n'a pas d'intelligence est semblable aux bêtes que l'on égorge.
Voilà, l'homme qui est en honneur, maintenant on rajoute, qui n'a pas d'intelligence, mais finalement, tu es comme les bêtes. Mais pourquoi on rajoute qui n'a pas d'intelligence? Parce que la première partie est censée nous donner de l'intelligence. Quand tu te rends compte de tout ce qui est écrit, ils ont, verset 7, ils ont confiance en leurs biens et se glorifient de leur grande richesse. Mais ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Donc, on nous fait comprendre que ce n'est pas possible de se racheter, d'acheter la vie. La mort est implacable, elle frappe tout le monde. Les richesses, ça n'y fait rien. Alors, l'homme intelligent va se dire quoi? Il va se dire, mais où se trouve la solution? Comment faire pour déjouer la mort? Ça, c'est l'intelligence, je dirais même instinctive. Puisque quand on est vivant, on sait très bien fuir la mort. Quand tu dois crier au secours, tu le cries très fort. Quand tu dois aller à l'hôpital très malade, tu y vas très vite. On appelle même ça l'instinct de survie. Il y a des gens qui ont mangé des humains pour survivre. Les joueurs de rugby, je crois, argentins, qui sont tombés, dont l'avion est tombé sur les montagnes il y a environ 50 ans. Ben, ils n'avaient rien à manger. Ils ont mangé leurs collègues morts. C'est ce qu'on appelle l'instinct de survie, quelque chose d'horrible. Ils l'ont fait. Ils ont bu leurs urines. C'est l'instinct de survie. Mais comment ça ne joue pas dans la réflexion humaine pour se dire, mais la mort vient tout gâcher. Il faut qu'on trouve la solution à ce problème-là. Ça ne joue pas. L'homme fonctionne sans intelligence. Il continue à manger, à boire et à dormir sans méditer, rechercher comment faire pour se départir de la mort. C'est un manque d'intelligence. Quand on voit tous ceux qui nous ont précédés, c'est ce qui est écrit. Quand il dit, tu iras néanmoins au séjour de tes pères, qui jamais ne reverront la lumière. Donc, tes propres pères n'ont pas vu la lumière. Et ils sont partis, ils ne sont pas revenus. Et toi, tu veux suivre leur route. Toi, tu dois, à partir de leur mort, réfléchir comment éviter le même sort. Ce psaume nous appelle à réfléchir sur la mort. On ne doit pas laisser la mort nous vaincre aussi facilement. On doit chercher la solution. Et il y a une personne qui a vaincu la mort. Il a dit de lui-même, « Je suis la résurrection et la vie. Quiconque croit en moi vivra même s'il meurt. » Vous pouvez chercher partout, vous ne verrez pas quelqu'un qui prétend vaincre la mort et qui l'a fait. Cherchez où vous voulez. Bouddha a parlé du karma, c'est-à-dire que lorsqu'on meurt, on se réincarne à un autre être, soit un arbre, soit une souris, un chien ou encore un homme, mais dans une position difficile pour être pardonné de nos péchés de l'ancienne vie, de la vie précédente. Jusqu'à ce que on mène une vie à 100% correcte qui va nous introduire dans le nirvana, un état dont on ne meurt plus. Mais est-ce que lui-même, il est entré dans le nirvana? Ben non, puisqu'il est mort. Donc il a échoué à son propre processus. Il est mort, il a été brûlé, ses poussières ont été répandues dans la rivière Srinagar. C'est historique, c'est connu. Mais qui d'autre pouvait prétendre vaincre la mort? Personne, à part Jésus. Lui, il a dit, non seulement je vais ressusciter, mais je vais ressusciter tous ceux qui vont croire en moi. Donc je commence par ma propre résurrection comme une garantie à tous ceux qui vont croire en moi plus tard. moi-même je ressuscite. Et ses apôtres l'ont vu. Ils ont mangé avec lui, ressuscité. Ils l'ont touché. Il a dit à Thomas, touche. Regarde, c'est bien moi. Tu peux me toucher. Il est revenu à la vie de sorte que nous pouvons en lui trouver la solution au problème de la mort. Alors pourquoi se compliquer la tâche? L'intelligence la plus simple nous appelle à croire en Jésus. Il est le seul qui crée une différence entre nous et les animaux. Donc c'est lui qui nous rend intelligents pour qu'on ne meure pas comme les animaux, mais pour qu'on meure dans l'espérance de la vie éternelle. C'est ça la différence. Ça nous montre un élément très important dans l'évangélisation et dans notre foi chrétienne, la victoire sur la mort. L'évangile de prospérité prêche la richesse, la santé, la réussite terrestre. Mais tout ça est avalé par la mort. Un des chantres de cet évangile de prospérité, Miles Monroe, il est mort dans son jet privé. À l'atterrissage, le jet a heurté un engin de construction. Mais est-ce que le jet l'a racheté, a empêché la mort? Non. Il avait des maisons, c'était un millionnaire. Est-ce que ça a empêché la mort? Non. Voilà ce que nous enseigne psaume 49. Tout ça n'est que mensonge. L'évangile de prospérité et ses amis, c'est des mensonges. La vérité, c'est Jésus, qui a la puissance de la résurrection, la puissance de nous redonner la vie après la mort. Nous continuons, psaume 50.
Psaume 50, psaume d'Asaph. Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu, il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice, et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoute, mon peuple, et je parlerai. Israël, et je t'avertirai. Je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas de taureau dans ta maison, ni de bouc dans tes bergeries. Car tous les animaux des forêts sont à moi, toutes les bêtes des montagnes par milliers. Je connais tous les oiseaux des montagnes, et tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Et Dieu dit aux méchants, « Quoi donc? Tu énumères mes lois et tu as mon alliance à la bouche. Toi qui hais les avis et qui jettes mes paroles derrière toi, si tu vois un voleur, tu te plais avec lui et ta part est avec les adultères. Tu livres ta bouche au mal et ta langue est un tissu de tromperie. Tu t'assieds et tu parles contre ton frère. Tu diffames le fils de ta mère. Voilà ce que tu as fait. Et je me suis tue. Tu t'es imaginé que je te ressemblais, mais je vais te reprendre et tout mettre sous tes yeux. Prenez-y donc garde, vous qui oubliez Dieu, de peur que je ne déchire sans que personne délivre. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu.
Amen, 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 amen. Amen. C'est curieux, je ferai voir le salut de Dieu, et c'est Dieu qui parle. Bon, bref, ce psaume nous montre que c'est Dieu qui est notre juge. Mais puisque c'est Dieu qui est notre juge, on doit faire attention. On ne doit pas penser qu'il ressemble aux juges de la terre, qui ont des considérations humaines, des considérations liées aux cultures humaines. Dieu, il est un juge profond, précis, pur, juste. C'est écrit au verset 6, « Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Sa justice est parfaite. » Parce que les enfants d'Israël avaient pour habitude, pour attirer la grâce divine, de faire des sacrifices, pour montrer leur attachement à Dieu, de faire des sacrifices. Mais Dieu dit, mais moi, ce que je veux, c'est des vrais sacrifices. Donc on pourrait dire de ce psaume, intitulé ce psaume, le juste juge, le vrai juge veut des vrais sacrifices. Dieu dit, mais ce n'est pas une question d'animal, même si c'est le commandement de Dieu de faire des sacrifices. Cette histoire de sacrifier des animaux servait pédagogiquement à appeler à la sainteté de l'homme lui-même. Puisqu'on sacrifiait les animaux à cause de notre mauvais comportement. Donc, on devrait comprendre que le vrai problème de Dieu, c'est notre mauvais comportement. Sacrifier l'animal n'est qu'une conséquence de notre mauvais comportement. Donc, quel est le problème de Dieu? Ce qu'il cherche, le verset 14, offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis de tes vœux envers le Très-Haut. C'est ça qu'il veut. Verset 23, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Donc ce qui est important pour Dieu, c'est notre comportement. Il a demandé des sacrifices afin que ça nous interpelle. Parce que quand tu as ton beau mouton qui fait ta fierté et que tu dois sacrifier ça, mais ça te fait réfléchir, mais pourquoi j'ai eu à sacrifier ça? Ben oui, parce que je suis pécheur. Ah, mais je dois arrêter avec le péché. Mais non, les humains se sont concentrés sur les sacrifices. Alors Dieu dit, mais est-ce que moi je mange la chair? C'est parce que vous me sacrifiez, vous pensez quoi? Au fait, vous pensez que je consomme ces choses? Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre comportement. Les animaux, c'est un moyen pour que je pardonne, pour que je vous fasse comprendre aussi en même temps les choses. Les sacrifices d'animaux, ce n'est pas la fin en soi. L'objectif réel, c'est que l'homme, en sacrifiant, regarde à lui-même pour dire, mais si je sacrifie, c'est parce que j'ai péché. Donc c'est mon péché qui gêne Dieu au point qu'il me demande de faire des sacrifices. Alors pourquoi ne pas arrêter de pécher? C'est ça l'objectif de Dieu, un des objectifs hein, à travers les sacrifices. Mais sinon, l'objectif le plus moitié-moitié avec le pardon. Mais l'homme se dit, bon, écoute, comme ceux qui donnent la dîme, les offrandes, ils donnent, ils se disent, bon, j'ai donné, maintenant, le reste c'est à moi. Je fais ma vie avec, maintenant. Dieu sait qu'il veut, c'est ton cœur. Et si ton cœur est à Dieu, tu ne vas pas dire, je lui ai donné son offrande, maintenant c'est bon pour moi. Non. Un cœur qui se donne à Dieu ne dit pas ça. Un cœur qui se donne à Dieu considère que tout est à Dieu. Et Dieu leur dit, tous les animaux des forêts sont à moi. En fait, vous ne me donnez rien, en fait, parce que tout ça, c'est à moi. Je peux moi-même me servir. Quand je vous le demande, c'est pour vous en déposséder, vous. C'était déjà à moi. Mais vous, vous en avez pris possession. Mais quand je vous demande, c'est pas que ça rajoute à ma richesse à moi, puisque c'est à moi. Je peux prendre moi-même, de moi-même. C'est juste pour l'appliquer sur vous. Vous en déposséder, vous pousser à la sainteté, vous pousser au changement de vie, vous pousser à m'adorer, à m'honorer. Mais si ces objectifs-là ne sont pas atteints, vous perdez votre temps à sacrifier les animaux. C'est ce qu'on a vu. On a vu dans le psaume 40, c'est écrit, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. » Voilà. « Mais tu m'as formé un corps. » Donc, il a fait un corps à son fils, donc Jésus, qui est venu pour être le sacrifice parfait. Non seulement sacrifice, mais comportement parfait. Au fait, c'est le total. Jésus-Christ est total en tout. Total en tout. Non seulement il est le meilleur sacrifice, mais il est aussi le meilleur comportement, le comportement parfait. Ce que Dieu aurait attendu des enfants d'Israël, c'était ça. Eux, ils se sont concentrés sur le sacrifice, les animaux. Tu viens, tu donnes ta belle bête, après tu recommences ta vie de péché. Non. Tu viens à l'église le dimanche, après tu recommences à crier sur ta femme. Non. Tu viens à l'église, à l'intercession, après vous vous disputez entre frères et sœurs. Non. C'est finalement l'attitude, quelqu'un qui veille sur sa voie. Donc, deux choses. Verset 23 donne la conclusion. Ce qui intéresse Dieu, c'est celui qui d'offrir pour sacrifice des actions de grâce. C'est-à-dire reconnaître la grandeur de Dieu, la bonté de Dieu pour toi, reconnaître sa miséricorde, le remercier pour tout ce qu'il fait. Là, c'est ça les actions de grâce. Ça, c'est un. Et deux, veiller sur sa voie, arrêter avec le péché, vivre pour Dieu. Donc, c'est ça qui intéresse Dieu. Les sacrifices ne sont qu'un intermédiaire dans tout ça. Le vrai objectif, c'est notre transformation. Il faut qu'on y pense. Le vrai objectif, ce n'est pas que je prêche, c'est que je pratique cette prédication que moi-même je prêche. C'est ça le vrai objectif. Prêcher n'est qu'un moyen. Mais l'objectif, c'est que moi-même je sois changé. Il faut qu'on y pense. L'objectif, c'est que quand tu rentres chez toi, tu puisses bien parler aux gens. Que tu obéisses à qui tu dois obéir. Au travail, l'objectif, c'est ça. C'est que tout ce que tu as entendu, ça te transforme. Mais nous, on va se concentrer. Ah, j'ai été au culte. Mais oui, mais c'est ce que Dieu dit. Ce n'est pas ça la fin de tout. La fin, c'est ta transformation. Comment tu réagis maintenant avec les gens de ta famille? Comment tu réagis lorsque quelqu'un te parle mal? Comment tu réagis lorsque ta voiture est rayée? C'est, ah oui, nous continuons, psaume 51.
Au chef des chantres, psaume de David. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut, et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne.
Amen, amen, amen. C'est voilà, il y a tellement d'enseignements que bon, si on lisait tout, ça nous coupe de beaucoup d'enseignements. On doit arrêter là pour faire quelques commentaires d'abord. J'ai lu récemment ce qu'a dit un serviteur de Dieu. Souvent, les gens, quand on est perturbé par les péchés qu'on a commis, donc, c'est dû souvent au fait qu'on ne les a pas reconnus aussi totalement. Voilà. Souvent, on est concentré sur la sévérité de Dieu. On se dit, c'est des choses cachées, hein, voilà. C'est des choses cachées. On reconnaît rationnellement comme ça qu'on a mal fait, mais après la demande de pardon, la culpabilité ne s'en va pas. On continue à penser que Dieu nous voit, Dieu nous pense, nous regarde mal. On continue à penser que c'est pas suffisant. Et il a dit, c'est souvent dû au fait que notre péché, on l'a pas reconnu totalement. On a une certaine reconnaissance comme ça intellectuelle, mais dans notre schéma de réflexion, c'est plus Dieu qu'on condamne dans sa sévérité, comme une sorte d'excès de jugement sur nous. Il ne nous comprend pas trop. Mais tout ça n'est pas dit. Et tant qu'on n'a pas reconnu que c'est nous le fautif, ben, ça va continuer à nous perturber jusqu'à ce qu'on dise, mais non, arrêtons, j'ai péché. Je reconnais. Au fait, c'est ce que fait notre grand ami David. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité. Donc, il reconnaît son iniquité. C'est lui qui a péché. Et purifie-moi de mon péché. Voilà. C'est pas vague. Il continue, il dit, car je reconnais mes transgressions. Il avoue que c'est lui le problème. Souvent, on est perturbé parce que on se dit, bon, quand même, c'est ma femme qui a commencé. C'est elle qui a commencé à mal parler. C'est mon fils qui a commencé à mal parler. C'est mon patron. C'est ce véhicule-là m'a mal dépassé. Il fallait quand même que je réagisse. Voilà, donc et on dit pardon, mais on n'est pas toujours à l'aise. Parce que on hésite à dire clairement que c'est ma faute. Et plus on ne dit pas que c'est ma faute, on traîne avec un goût résiduel de péché qui nous tue la vie. Soyons simples, reconnaissons. Peu importe les causes indirectes, reconnaissons notre tort. Il y a toujours des causes indirectes. Puisqu'on est tenté. Si on est tenté, il y a des causes indirectes. Mais ne faisons pas des causes indirectes une justification pour confesser à moitié. Comme si notre responsabilité était mineure, mais Dieu est trop sévère. C'est faux. On a péché, reconnaissons ça. Disons à Dieu, comme on l'a vu dans le psaume, non, on va le voir plutôt dans le psaume 103. Dieu sait que notre chair n'est que poussière, quoi. On dit, Seigneur, voilà, je suis une créature de péché. D'ailleurs, c'est ce qu'il finit par dire, lui. Hein. Il dit je suis né dans le péché. Il va le dire quelque part. Voilà. Donc, c'est. Disons plutôt cela, au lieu de vouloir faire passer Dieu comme un juge excessif. Voilà. Et patauger comme ça, dans une sorte de pardon à moitié, qui nous met mal à l'aise et qui nous rend irritable aussi. Quand on ne se sent pas très bien pardonné, on devient irritable. Alors qu'on voit que le vrai pardon, ça produit quoi? Verset 14, « Rends-moi la joie de ton salut. » Ça produit une certaine joie, on est libre. Voilà, c'est cela. Et un autre enseignement, c'est que au verset 8, il dit « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. » Tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Dieu veut des gens sincères, pas compliqués, sincères. Tu dis « J'ai mal fait. » Pas commencer à dire « Mais c'est parce qu'il y avait ça, mais je ne comprends pas d'où ça. » Non, il faut être simple, dire les choses, la vérité soit au fond du cœur. Les gens francs, vous savez, Jésus a dit à Pilate, « Je suis venu témoigner de la vérité, et ceux qui sont de la vérité m'écoutent. » Donc les gens qui sont sincères, francs, honnêtes, ils écoutent Jésus. Mais les gens compliqués, ils vont toujours complexifier les choses, alors que c'est simple. Reconnais que tu as crié. Reconnais que tu as mal parlé. C'est tout. Ah oui, mais c'est parce que... Oh non. Ça, ce n'est pas la vérité au fond du cœur. Ce n'est pas bon. Et on voit aussi la réalité du péché, c'est que ça enlève la joie. Ça vide. On se sent vide. On se sent faible. C'est pourquoi David dit « Annonce-moi l'allégresse et la joie » au verset 10. « Et les os que tu as brisés se réjouiront. » Nos os se brisent quand on pêche, quand on est un vrai enfant de Dieu. Hein. Mais le païen peut, lui, se sentir fortifié quand il pêche. Mais un vrai enfant de Dieu, sans ses os se briser, il perd en énergie. Ah. Oh. Oh. Il chancelle. Et quand il est pardonné, la vie revient. Il renouvelle, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Voilà. Là, on voit aussi que seul Dieu peut nous pardonner et peut effacer nos iniquités. C'est une grâce, quoi. C'est pas quelque chose qu'on peut revendiquer par des bons comportements, non. C'est vraiment la grâce de Dieu, il efface tes iniquités. Ce n'est pas parce que tu aurais changé, non, c'est juste parce que tu l'aurais demandé. Et aujourd'hui, on a un avantage supérieur à David, c'est qu'on a le sang de Jésus, le sang parfait qui peut purifier, qui peut effacer réellement les péchés. Quand il dit « Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint », oui, parce qu'il a subi les effets de l'inaction du Saint-Esprit. Éphésiens 4, 30 nous dit « N'attristez pas le Saint-Esprit, comment on l'attriste par le péché ?» Et quand on subit l'inaction du Saint-Esprit alors qu'on était habitué à son action, ça fait vide, ça fait sans goût. Le chrétien mature, il fuit le péché pas seulement pour ne pas déplaire à Dieu. Ils fuient le péché parce que ça leur enlève tout ce que David donne là. Leurs os se brisent. Ils ont, c'est comme s'ils étaient devenus secs. Ils ne sont pas bien. Ils ne veulent pas cette sensation-là de bien alors ils fuient le péché. Bien sûr, il y a aussi le côté ne pas déplaire à Dieu. Mais le chrétien mature, c'est celui qui connaît la parole. Il sait que nos péchés sont effacés par le sang de Jésus quand on demande pardon. Ce n'est pas une histoire d'enfer. Il sait qu'il n'ira pas en enfer parce qu'il a péché. Il sait qu'il sera pardonné quand il va lui demander pardon. Mais rien que les effets immédiats du péché, ça l'embête. Ça l'embête. Le Saint-Esprit, c'est la vie. C'est la gloire. Et quand on en est privé, on n'est pas bien, on n'est pas bien. Et c'est ça la prière de David. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit, de bonne volonté me soutienne. Que je veux revivre, Et par conséquent, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Amen. Voilà, ça va créer un élan pour dire aux autres, venez. Si moi, il m'a pardonné, il peut vous pardonner. Arrêtez avec le péché. Parfois, on continue à pécher parce qu'on pense qu'il n'y a pas de solution. Il y a la solution, il y a le pardon de Dieu et la transformation. Paul a dit, c'est une chose certaine digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu pour les pécheurs, dont je suis le premier. Mais s'il m'a pardonné, il continue hein, dans les versets qui suivent, s'il m'a pardonné, c'est parce qu'il a voulu montrer à tout le monde qu'il peut pardonner n'importe qui. Alors ne demeurez pas dans la colère et toutes sortes de péchés. Revenez à Dieu. Il vous pardonnera et il vous donnera une nouvelle vie. On peut continuer, verset 16 à la fin.
Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé, et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Si tu avais voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières. Alors on offrira des taureaux sur ton autel.
Amen, amen. Vous voyez la correspondance, l'analogie avec le psaume précédent qui n'est pas de David. Le psaume 51, c'est de David, quand il, à cause de son péché avec la femme d'Uri, Bathsheba. Mais le psaume 50, c'est un psaume d'Asaph. Voilà encore un autre auteur des psaumes qui nous est présenté. Il y a eu David, les fils de Corée. Là, il y a Asaph, le psaume 50. Et la leçon du psaume 50, c'est quoi? On a dit les vrais sacrifices. Les vrais sacrifices. C'est pas les animaux, le vrai sacrifice. C'est le cœur de vérité, le cœur pur et le cœur qui adore Dieu, qui reconnaît la grandeur de Dieu. Et David le redit en d'autres termes. Si tu eusses voulu des sacrifices, verset 18, je t'en aurais offert. David dit, le plus important, ce ne sont pas les animaux parce que moi je suis riche, je suis roi. Si c'est une question de donner des animaux, mais je peux en donner à foison. Mais en réalité, verset 19, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Un homme humble qui reconnaît qu'il est petit et qui s'attend à Dieu pour le relever. C'est ça qui plaît à Dieu. Voilà, il a compris ça. Donc c'est deux auteurs différents, mais le même esprit, la même compréhension des choses. Voilà, et ils disent, et si nos cœurs sont bons, tu te réjouiras alors de nos taureaux, tu rejoins de nos holocaustes. Parce que certains aussi utilisent ça pour dire, ah mais ce que Dieu veut, c'est le cœur. Ah, bon, je lui donne rien, je viens seulement avec un cœur pur. Non, si maintenant le cœur est bon, maintenant ce que tu donneras sera apprécié par Dieu. Voilà, c'est ça quoi. Voilà, on va s'arrêter là. On va continuer avec le psaume 52. Ah oui, question.
Donc, question internet. Nous voulons être libres. C'est difficile avec les différentes réglementations qui sont imposées dans certaines assemblées, du genre, on ne met pas des pantalons, on ne met pas les mèches, etc. Comment s'y libérer?
Je n'ai pas compris la question.
Je pense que ça doit être par rapport aux femmes qui ne doivent pas mettre des pantalons.
Oui. Moi, je pense que ce n'est pas la tenue vestimentaire qui nous libère. Voilà. C'est l'Esprit de Dieu. Et moi, si j'étais une femme et que Dieu me désigne un endroit où être en communion avec des frères et que une tenue les met mal à l'aise, bon, je ferai en sorte de ne pas faire ça. Non pas que je me soumets à des humains, mais c'est juste que je ne veux pas être un obstacle pour l'autre. Donc je pense que l'Esprit de Dieu, et l'apôtre Paul dit, nous a déjà libérés. Nous ne devons pas faire les choses comme dans une sorte d'esclavage des humains. Voilà. Donc on doit viser l'amour et la construction sans pour autant sortir de la parole. Donc pour moi, la sœur n'a pas à s'inquiéter, elle est libre, elle est libre. Mais elle doit se dire, je fais les choses pour quoi ? Pour mon Dieu ou pour moi ? Voilà. Si on fait pour Dieu, le Saint-Esprit nous conduira dans des attitudes qui n'offenseront pas les autres. Voilà. Mais ce n'est pas la tenue qui nous rend purs. Hein. C'est l'Esprit Saint, c'est le sang de Jésus qui nous purifie. Mais si on est pur de l'intérieur, cela se manifestera par la tenue également, parce que nous nous habillerons d'une manière décente, de sorte à ne pas être une occasion de chute pour quiconque. Voilà, c'est ça la leçon à tirer. Mais si on doit juste prendre le nom de tenue comme tel, on va avoir des problèmes, parce qu'en Écosse, les hommes mettent des jupes. Donc on va avoir des problèmes. Ce n'est pas les tenues en soi, c'est ce qu'elles peuvent apporter comme danger, comme problème spirituellement. Voilà, dans un cas ou dans l'autre, il y a dans nos villages, il y a 50 ans ou 30 ans, ou même encore aujourd'hui, hein, les hommes mettent des pagnes comme des femmes. Au Maroc, l'homme et la femme mettent le même vêtement qu'on appelle djellaba. Mais la couture montre que ça, c'est pour la femme, ça, c'est pour l'homme. C'est pas ça. C'est ce que peut créer ce vêtement-là qui peut faire causer problème. Donc, si ce vêtement-là montre des choses de mon corps qui peuvent gêner, ce n'est pas bon. Si le vêtement que je mets est parfois extravagant, ce n'est pas que c'est impur, impudique, mais c'est extravagant. Ça fait que les gens n'ont Dieu que pour moi au lieu d'avoir Dieu pour, les yeux pour Dieu. C'est un problème. Donc, c'est tout ça. C'est un ensemble. C'est pourquoi c'est le cœur à 100% pour Dieu qui compte, et cela va se manifester à travers notre comportement. Nous, on a vu aussi des gens s'habiller correctement, tout en faisant montre d'un orgueil immense par leur habillement. Donc quand ils marchent, tu sens que moi je suis habillé correctement. C'est ce que Jésus dénonce par rapport aux pharisiens. Donc ils se mettent là dans les places publiques en disant, mais moi je suis habillé correctement. Non, c'est pas, c'est pourquoi le plus important c'est le cœur. Une fois j'en ai parlé, il y a des choses que dans ma liberté en tant qu'homme, je peux faire, mais sans que ça soit des péchés. Mais je ne fais pas parce que je suis en position de berger. Et souvent, les gens imitent le berger aveuglement. Donc, ils vont m'imiter sans connaître mes dispositions. Et eux, ils vont faire ça dans de mauvaises dispositions. Et ça va mal finir pour eux. Et donc, pour eux, je ne fais pas. Je me dis non. Je me retiens par rapport à telle chose, même si ce n'est pas un péché. Mais quelqu'un peut m'imiter en mal. Donc, voilà. Donc, tout ça... C'est se dire, nous vivons pour qui ? Nous vivons pour le Seigneur, nous ne vivons pas pour nous-mêmes. Voilà quoi. On va prier. Seigneur, nous te remercions pour ce psaume 51 qui est merveilleux, merveilleux d'humilité, merveilleux de vérité sur ton amour, sur ta miséricorde, sur le pardon qui ne peut venir que de toi et non pas de nous. Merveilleux de nous montrer le vrai sacrifice qui est un cœur entier, totalement à toi, Seigneur. Nous prions, Seigneur, que tu nous y amènes, comme le psaume 50 le confirme, que notre vie serve pour ta gloire. et que nous puissions veiller sur nos voies, que nous fuyions le péché sous toutes ses formes, sans exception. Seigneur, nous prions également que nous puissions célébrer chaque jour notre résurrection future en Jésus. Quand nous voyons les riches milliardaires être sans espoir à la veille de la mort, nous sommes plus que millionnaires parce que eux, avec leurs milliards, ils n'ont pas pu acheter la vie. Mais nous, par Christ, nous avons la vie éternelle. Donc nous sommes plus que les milliardaires, Seigneur. Et aide-nous à utiliser ça pour l'évangélisation. Et pas aller dire aux gens qui vont être riches ou ceci, cela, Seigneur. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour cette journée de victoire sur les forces des ténèbres liées à la vaccination et à l'écologie diabolique. Au nom de Jésus. Amen.